mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bienvenue aux auditeurs, bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Louis.
Toujours intéressé par l'anthropologie de René Girard?
Bien sûr. Tu as dit qu'elle tenait en deux idées, mimétisme et bouc émissaire. Que veut dire exactement ce terme de bouc émissaire?
Dans la tradition biblique, le bouc émissaire est un bouc au sens propre. Le rituel consiste à le charger symboliquement de tous les péchés de la communauté et de l'expulser vers le désert. Une mort certaine l'attend, ainsi la tribu sera-t-elle rendue à sa pureté. Dans l'usage courant, le bouc émissaire est un innocent que l'on charge à faux de la responsabilité d'un malheur ou d'un échec. C'est le fusible, celui à qui l'on fait porter le chapeau, le lampiste qui paie pour tous les méfaits des autres. Ainsi Girard va reprendre ce terme, mais en lui donnant un sens plus précis. Le bouc émissaire, selon Girard, apparaît à un moment bien déterminé. Les désirs mimétiques rivaux se sont propagés par contagion, la communauté est en crise et se trouve en danger d'auto-extermination. Un phénomène se produit soudain. La communauté se rassemble contre un individu. À l'unanimité, elle voit en lui l'instigateur de la crise. L'hostilité qui régnait entre les uns et les autres se réoriente d'un coup dans une seule direction, contre celui qui devient ainsi le bouc émissaire. La communauté le met à mort, ce qui va sinon éteindre, du moins calmer les tensions.
Comment René Girard a-t-il imaginé ce schéma?
Il ne l'a pas imaginé. Il a simplement remarqué que tous les mythes fondateurs comportaient une mise à mort. Et il a examiné de près le cas de toutes ses victimes. Cela lui a permis de constater que ce mécanisme du bouc émissaire était universel.
Peux-tu nous donner quelques exemples?
Bien sûr. Citons d'abord le mythe d'Édipe.
Celui du complexe d'Édipe?
Oui. Son histoire est la suivante. Dans une antiquité grecque fort lointaine, Édipe est le roi de la ville de Thèbes. Une épidémie de peste survient et fait des ravages. Dans ces temps-là, on pensait qu'une telle épidémie était envoyée par les dieux pour punir les hommes. On ne cherche donc pas à secourir les malades, on cherche un coupable. Édipe lui-même mène l'enquête et découvre qu'il a, sans le savoir, car il était un enfant abandonné, tué son père et épousé sa propre mère. Ce sont les deux crimes les pires. Toute la ville de Thèbes pense alors que les dieux ont envoyé la peste pour la punir de ses crimes. Édipe lui-même le croit. Il accepte donc son châtiment, les yeux crevés et l'exil. Édipe, une fois exilé, Thèbes est-elle guérie? Tous les Thébains le croient. Mais nous savons aujourd'hui que cette croyance est fausse. La peste est causée par une bactérie dont la circulation n'a rien à voir avec des intentions divines. Pour cette même raison, nous doutons aussi qu'Édipe ait été réellement parricide et incestueux. Voilà le point fondamental mis en évidence par René Girard. Pour que le phénomène du bouc émissaire soit efficace, c'est-à-dire que sa mise à mort ramène le calme, il faut que tout le monde soit convaincu de sa culpabilité. Avoir un bouc émissaire, écrit René Girard, c'est ne pas savoir qu'on en a un. Le mythe d'Édipe fait partie de ceux qui fondent la culture grecque. Sa version la plus célèbre est le drame écrit par Sophocle. Pas un instant, Sophocle n'envisage l'hypothèse qu'Édipe soit innocent. 4 siècles avant Jésus-Christ, il raconte cette histoire encore plus ancienne. C'est la force du mythe. Même une personne de l'intelligence de Sophocle ne doute pas de la culpabilité d'Édipe.
Ce n'est pas la seule histoire racontée par la culture grecque. Pourquoi a-t-elle un caractère fondateur?
Le caractère fondateur de ce mythe vient de l'ambivalence du bouc émissaire. Il est à la fois maléfique et bénéfique, et cette ambivalence engendre le sacré. Édipe fait tomber sur Thèbes la punition des dieux, mais il sauve la ville en acceptant son châtiment. Il l'avait d'ailleurs déjà sauvé des années auparavant. Un animal mythique, la sphinx, terrorisait Thèbes. Édipe, alors simple vagabond, l'a vaincu. Les Thébains le choisissent donc pour roi, le précédent roi étant mort. Édipe doit ainsi épouser sa veuve. Or, c'étaient ses parents, et personne ne le savait. Édipe est à la fois un sauveur et un criminel. Ce double statut est incompréhensible, il fascine les Thébains. Cela procure à cette histoire une dimension sacrée. René Girard retrouve ce schéma un peu partout. Chez les Indiens d'Amérique, dans les civilisations précolombiennes, en Afrique, en Inde, il interprète les récits des ethnographes et trouve le sens de rituels totalement déconcertants. Dans certaines tribus, au nord de l'actuel Swaziland par exemple, il était coutume de choisir un roi et de lui faire profiter à sa guise d'une nourriture abondante et des femmes de la tribu. Il était même tenu de pratiquer l'inceste. En contrepartie, il était mis à mort dès qu'une calamité s'abattait, sécheresse, épidémie, famine, etc. Son sacrifice était réputé mettre fin au malheur. Girard voit dans ces rites la même structure que dans les mythes d'Œdipe. Un bouc émissaire, à la fois sauveur et transgresseur, est, précisément à cause de ce double statut, sacralisé.
Ce mécanisme existe-t-il encore? La passion du Christ a révélé sa fausseté, la science également.
Nous nous extrayons très lentement de ce mécanisme. René Girard le décèle dans les accusations portées contre les Juifs lors de la Grande Peste de 1347. Les assassinats et les exécutions de monarques portent également la marque de ce mécanisme. Jules César à Rome, en Angleterre, Édouard II, Richard II, Henri VI, Charles Ier, en France, Henri III, Henri IV, Louis XVI, en Russie, Alexandre II, Nicolas II, en Autriche, l'héritier du trône, l'archiduc François Ferdinand, dont l'assassinat déclenche la Première Guerre mondiale. Nous trouvons un exemple très frappant de bouc émissaire dans un film de Fritz Lang intitulé « Fury ». L'histoire, inventée dans ses détails, est inspirée par le climat que Fritz Lang découvre aux États-Unis. Vers 1930, dans une petite ville de l'Ouest américain, une fillette a été enlevée. C'est la crise, les habitants se suspectent les uns les autres. Arrive un étranger qui n'a rien à voir avec l'enlèvement. Mais la rumeur se propage qu'il est suspecté par le shérif, qui l'a mis en détention le temps de son enquête. La foule se couvint alors qu'il est coupable, envahit la prison, neutralise le shérif et son équipe, qui s'oppose à une exécution sommaire, et met le feu au bâtiment où se trouve l'étranger. Une scène saisissante montre alors les visages des habitants, contemplant avec fascination les flammes. La paix est revenue dans la ville, au prix de la mise à mort d'un innocent.
Jean-Louis, pourquoi le rôle de bouc émissaire tombe-t-il sur une personne plutôt qu'une autre? Tu as mentionné des Juifs, les rois, un étranger dans la ville. Ce ne sont pas les mêmes profils. René Girard a-t-il éclairé cette question?
Il a identifié plusieurs critères. Le premier est la vraisemblance. Pour que tout le monde croie à la culpabilité du bouc émissaire, celui-ci doit présenter un minimum de vraisemblance quant à sa responsabilité dans la crise. D'où le choix des rois et dirigeants à qui l'on attribue volontiers le soin d'éviter les ennuis collectifs. Un deuxième exemple, au rebours du premier, est la faiblesse. Une communauté se ligue contre le moins puissant. Elle limite ainsi les risques de représailles. Une fable de La Fontaine, Les animaux malades de la peste, en donne un bon exemple. Confrontés à l'épidémie, les animaux décident d'immoler un coupable pour calmer les dieux. Cela nous rappelle Thèbes et Édipe, sauf que là, le choix ne tombe pas sur le roi, mais sur le plus humble, l'âne. Un dernier critère identifié par Girard est le caractère étrange ou étranger. C'est la même étymologie du bouc émissaire. Dans le film Fury, l'hostilité des habitants s'abat comme par hasard sur l'étranger à la ville. À l'époque de la peste noire, les Juifs vivaient en marge de la société. Plus encore, René Girard a remarqué qu'un bouc émissaire se distingue souvent par une particularité qui le rend étranger aux autres. Nous en avons un exemple avec une lapidation organisée au IVe siècle après Jésus-Christ par un gourou nommé Apollonios de Tyane. Il est encore question de débarrasser une ville d'une épidémie et Apollonios désigne à la vindicte populaire un mendiant infirme au regard chassieux. Édipe lui-même était d'ailleurs boiteux.
Je crois qu'il est temps, Jean-Louis, de remercier nos auditeurs et de leur donner rendez-vous pour une prochaine chronique.
Au revoir Catherine.
Au revoir Jean-Louis.